À la une de l'actualité, les élections municipales. Le second tour du scrutin se déroule aujourd'hui. Vous retrouverez sur l'antenne d'RRB ce dimanche votre soirée spéciale municipale 2026. Les bureaux de vote fermeront leurs portes d'ici 15 minutes à 17h. Le taux de participation sur les 25 communes concernées du territoire s'élevait à 54,16%. C'est plus que dimanche dernier. À Saraméa, une semaine après le premier tour, le nouveau conseil municipal n'a pas pu se tenir pour l'élection du maire et des adjoints. Le quorum n'était pas atteint. Dans l'actualité également, la météo. Un épisode de précipitation qui concerne la Calédonie. Une vigilance orange, forte pluie, orage en cours sur une grande partie du territoire. Les averses soutenues vont s'intensifier ces prochaines heures. À l'international, le conflit au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz reste l'objectif prioritaire des États-Unis. Donald Trump lance un ultimatum au régime de Téhéran pour réouvrir l'axe maritime. Le sport du rugby place un choc au sommet demain en top 14. Le champion de France, le Stade Toulousain, ira défier l'UBB, vainqueur de la dernière Champions Cup. Et en Calédonie, la pratique du BMX se développe avec un site sur mesure à Tina et l'annonce d'une coupe territoriale de BMX Race cette année. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Nous sommes le dimanche 22 mars, jour du second tour des élections municipales 2026. C'est ce qui fait évidemment la une de l'actualité ce soir. En Nouvelle-Calédonie, les bureaux de vote ferment dans 15 minutes pour les 25 communes encore concernées par le scrutin. Ils avaient ouvert leurs portes à 8 heures. Nous vous avons fait vivre ce dimanche électoral au plus près tout au long de la journée sur notre antenne. Voyons dès à présent quelles ont été les tendances concernant la participation avec vous, Elisabeth Noir.
Une tendance à la hausse, semble-t-il. Vous le disiez, les 248 bureaux de vote des 25 communes concernées par ce second tour des municipales vont fermer dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant, à 18h exactement. On rappelle que quelques 200 130 électeurs étaient appelés à voter pour ce second tour. Globalement, je vous le disais, la participation semble un peu plus élevée que ce qu'elle était dimanche dernier. Dimanche dernier, le 15 mars, la participation finale avait atteint 56,08% sur l'ensemble du territoire pour le premier tour des municipales. Selon les chiffres du Haut Commissariat, la tendance est à la hausse pour ce second tour de scrutin, puisqu'à 17h, la participation avait atteint 54,16%, soit 6 points de plus que dimanche dernier à la même heure, où elle avait été de 47,73%. À Nouméa, en revanche, il semble y avoir un très léger infléchissement de la participation. Selon les chiffres que nous avons relevés à 16h, la participation à Nouméa était de 40,3% contre 41,90% la semaine dernière à la même heure. Voilà pour les chiffres dont nous disposons pour le moment. Le prochain rendez-vous maintenant pour ces élections municipales, ce sera dès 18h30, 19h. Notre dispositif est en place pour que vous soyez les premiers et les mieux informés avec la mobilisation de nos cellules de collecte des résultats et notre cellule informatique. Nous débuterons notre grande soirée électorale dès que nous aurons les premiers résultats, bureau de vote par bureau de vote, puis commune par commune. Des résultats que vous pourrez suivre également sur notre site internet et sur la page Facebook RRB avec un Facebook Live. Je vous rappelle que nous serons toute la soirée en compagnie de notre consultant Ismet Kurtovic pour commenter et décrypter les résultats. Et dès que possible, vous pourrez entendre les premières réactions des différents candidats. Vers 22h, 22h30, nous devrions connaître le nom des 25 candidats qui auront remporté ce second tour des élections municipales.
Merci Elisabeth Noir, le rendez-vous est donc bien pris. Illustration à présent de ce deuxième tour du scrutin, notamment à Nouméa, où on le rappelle, 68 860 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. Pour beaucoup, il était important d'aller accomplir son devoir de citoyen en se rendant aux urnes. Écoutez ces quelques témoignages.
À voter. Signature.
C'est important, c'est essentiel pour la démocratie et il faut le faire.
On a la chance de pouvoir le faire.
Oui, très très important.
Je vote comme tout le monde, obligé de voter pour la Calédonie. C'est plus comme avant, là, tu fais la queue. Voilà, ça va aller vite, comme il y a beaucoup, là, beaucoup de bureaux de vote. Là.
Ben oui, absolument. Je le fais tous les ans depuis l'âge de 18 ans, voilà. Aucun problème.
Oui, important, oui. Rapide, il n'y a personne. Oui, ça fait du bien.
Comme chaque année, ou chaque élection.
C'est sûr que c'est un droit, il faut le respecter. Il n'y a presque pas de monde.
Même quelle que soit l'heure, en fin de compte.
Même si ça prend un peu de temps, il faut le faire.
Oui, c'est plus rapide que faire les courses.
Ah mais oui, carrément. Il faut surtout pas louper ça.
Vous êtes venu accompagner pour voter?
Ben oui, parce qu'en fait, il a fait tous les meetings. Alors, il faut qu'il fasse le travail jusqu'au bout. Hein. On est venu voter deux fois, et ben deux fois avec le toutou. Pour notre belle ville.
Elle voulait venir. Oui. Elle voulait voir ce que c'était.
C'est une bonne occasion de montrer ce que c'est l'exercice démocratique.
Exactement.
Raconte-nous, tu as fait quoi là ce matin avec maman?
Et j'ai été votée.
Alors c'était comment?
Bien.
Plus tard, tu voteras quand tu seras grande?
Oui.
C'est un des rares moments où on nous demande notre avis, donc je pense qu'il est important de l'exprimer, ne serait-ce que pour tous ceux qui se sont battus, pour qu'on puisse l'exprimer, voilà.
À voter.
Et on rappelle que pour ce scrutin, certaines communes ont décidé de regrouper les bureaux de vote, comme c'est le cas à Nouméa, un aménagement qui permet de simplifier les opérations. Sébastien Masson est l'un des responsables du site de la salle Omnisport de Lensvata.
On a 10 bureaux de vote regroupés dans la salle. Ça se passe très bien, on a eu une grosse affluence à l'ouverture à 8h. Et voilà, c'est le deuxième tour, donc les gens sont habitués, reconnaissent les bureaux de vote, donc ça se passe très bien. Là, ça va très vite, on n'a plus de file d'attente, ça circule bien dans la salle, il n'y a aucun souci. On a aussi rajouté une rampe pour améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, pour rentrer sur la salle. Donc vraiment, on a tenu compte de ce qui avait moins bien fonctionné la semaine dernière.
Et à la salle Omnisport de Lensvata, la rapidité des opérations de vote est saluée par une large partie de la population, comme nous l'a dit Georges après avoir voté.
C'est bien, hein, c'est parfait, disons, de toute manière c'est très fluide, hein, c'est l'important, c'est fluide, et comme apparemment tout le monde arrive les uns après les autres, il n'y a pas d'embouteillage, c'est parfait. Et il faut continuer ce genre de regroupement pour les votes parce que c'est fluide.
Un tour d'horizon de ce deuxième tour des élections municipales en Corse, cette fois en province nord, où là aussi les bureaux de vote ont bien évidemment ouvert leurs portes à 8h ce matin. L'affluence est restée constante depuis le début de la journée. Par exemple, sur la commune de Wailou, Adriana Néron est secrétaire du bureau de vote numéro 1 en mairie de Wailou.
D'après les retours, il y a eu plus de participation que le premier tour. Je pense qu'avec le pourcentage d'abstention qu'on avait eu la dernière fois, je pense qu'il y a eu plus de communication dans les tribus et tout, pour les personnes qui sont pas venues voter pour le premier tour, quoi. Les candidats, ils sont partis en tribu, ils ont encouragé les jeunes, tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou qui pouvaient pas ou qui voulaient pas de venir voter aujourd'hui. Il y avait des gens qui n'étaient pas venus au premier tour, qui étaient déjà là à l'ouverture à 8h, 9h, quoi.
On prend maintenant la direction des îles Loyauté, à l'inverse de Lifou qui a déjà désigné son maire. Ouvéa et Marais votent encore ce dimanche pour le second tour du scrutin. À Ouvéa, Jenny Juni est responsable du bureau de vote de la mairie d'Ouvéa.
On a eu de la pluie depuis ce matin, mais ça n'a pas empêché la population de venir faire leur droit de vote. Il y a eu plus de participation qu'au premier tour. Là, à 17h, on peut dire qu'on a plus de 10% par rapport au premier tour de votants, de plus que le premier tour. Il y a eu de la mobilisation. Donc voilà, ça concerne tout le monde.
Des propos recueillis par Kelinda Boicou. On rappelle enfin que pour les 25 communes dans lesquelles se déroule un second tour de scrutin ce dimanche, les bureaux de vote donc fermeront leurs portes d'ici quelques minutes à 18h. Les élections municipales, un scrutin national. Les bureaux de vote ouvrent leurs portes en ce moment même en métropole. Un scrutin qui se déroule également dans la plus grande partie des départements et territoires d'outre-mer. Au total, il y a un deuxième tour dans plus de 1500 communes. 17 millions de Français sont appelés aux urnes. Les résultats s'annoncent très serrés dans les grandes villes. Le scrutin a commencé également à Mayotte ou encore à La Réunion. Notez d'ailleurs que demain matin, sur l'antenne d'RRB, vous pourrez suivre de 7h à 8h la grande soirée électorale d'Europe 1, avec là encore les principaux chiffres, les analyses, les décryptages et les premières réactions à l'issue du scrutin. Rendez-vous juste après Info Matin, votre grand journal de 6h30, présenté par Nicolas Legrand. Et en attendant, je vous le rappelle, dès ce soir sur RRB, notre dispositif est en place pour que vous soyez les premiers et les mieux informés avec nos cellules de collecte de la participation et des résultats et notre cellule informatique. Dès 18h30, 19h, nous débuterons notre grande soirée électorale avec les premiers résultats très rapidement, bureau de vote par bureau de vote, puis commune par commune. Des résultats à retrouver également sur notre site internet et sur la page Facebook de RRB avec un Facebook Live. Et puis nous serons toute la soirée en compagnie de notre consultant Ismet Kurtovic pour commenter, décrypter les résultats. Et dès que possible, vous pourrez entendre les premières réactions des différents candidats. Rendez-vous donc aux alentours de 18h30, 19h pour notre grande soirée électorale spéciale municipale 2026. Vous le savez, dans 8 communes de Nouvelle-Calédonie, cette élection s'est jouée au premier tour. À Saramea, commune de moins de 1000 habitants, où il n'y avait qu'un seul tour dimanche dernier, les élus du nouveau conseil municipal étaient convoqués à 9h ce matin pour élire le maire et ses adjoints. Mais finalement, le premier conseil municipal de la nouvelle mandature n'a pas pu se tenir, faute de quorum. Les élus des listes de Carmen Olero et Tony Kawa étaient présents ce matin, mais ils sont restés à l'extérieur de la mairie. Les précisions du maire sortant, Prisca Olero.
Bah, ce conseil municipal n'a pas pu se tenir justement parce que des élus de la liste de M. Kawatoni comme de Olero Carmen ne sont pas rentrés dans la salle de conseil, donc je ne pouvais que constater que je n'avais pas de quorum. Donc il a fallu préparer une nouvelle convocation.
Ils ont expliqué pourquoi ils ne sont pas rentrés dans la mairie pour ce conseil municipal ?
Ils ont bien compris que s'ils ne rentraient pas, il n'y avait pas de quorum, donc je ne peux pas réunir.
Mais jeudi, avec reconvocation, s'ils ne reviennent pas pour ce conseil municipal du jeudi prochain, comment ça va se passer ?
On sera sur les mêmes circonstances et puis de toute façon, il faudra que tout le monde soit là pour qu'on puisse faire les choses correctement parce que, en plus, apparemment, c'est une première dans ce pays, voire à l'échelle nationale. Du coup, je suis un peu. C'est compliqué. Mais bon, c'est remettre en cause les résultats de dimanche dernier, quoi. Le principe, c'était de pouvoir installer le nouveau conseil municipal avec les résultats du 15 mars. Et là, on fait en sorte que ça soit décalé à 3 jours. Mais c'est pas possible. Parce que comment tu veux garantir une continuité démocratique dans des conditions comme ça ? On ne peut que regretter le fait que le nouveau exécutif ne soit pas mis en place. Hein. Ça ne fait que reculer les attentes de nos populations. On n'est plus sur l'intérêt de la population, mais sur les intérêts des élus.
Prisca Olero, qui était interrogée par Kélinda Boicou, le maire sortant, a donc reconvoqué le conseil municipal le jeudi 26 mars à 10h. C'est donc au cours de notre grande soirée électorale que l'on connaîtra les résultats globaux de ce second tour des élections municipales. Des élections qui feront encore, bien évidemment, la une de l'actualité dans les prochains jours, Lionel Sabot.
En effet, Mickaël, après le renouvellement général des conseils municipaux, il faut que les nouveaux conseillers municipaux élisent le maire et ses adjoints. Cette élection doit se tenir lors de la première réunion du conseil municipal qui se tient de plein droit à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux entre le vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseiller a été élu. L'ensemble des nouveaux conseils municipaux devront donc se réunir entre le 27 et le 29 mars, c'est-à-dire en fin de semaine prochaine. À noter aussi dans l'agenda de la semaine qui va s'ouvrir d'ici quelques heures, la suite et la fin de la première session d'assises de l'année. La Cour jugera la semaine prochaine 2 affaires de meurtre. Pour la première à partir de demain, c'est un homme de 56 ans qui sera dans le box des accusés. Il comparaîtra pour agression sexuelle et viol sur conjoint. Mardi, dans le cadre de sa politique de prévention du décrochage scolaire, le vice-rectorat déploie son dispositif SAS Accélérateur de réussite, dispositif innovant qui sera présenté à 19 jeunes et à leurs familles au lycée Petro à Titi. Jeudi, les élus du Congrès se retrouveront au boulevard Vauban pour une séance publique, à l'ordre du jour notamment l'examen d'un projet de délibération portant création d'un dispositif d'aide à la continuité pays et d'un projet de délibération portant adaptation des diverses dispositions du droit du travail en réponse à la crise de mai 2024. Dans l'actualité culturelle, la semaine de la langue française et de la francophonie débutera demain. Parmi les rendez-vous à noter, une soirée de la francophonie, ce sera jeudi le 26 mars à la Maison Célière et la Grande Dictée du Pacifique samedi prochain le 28 mars à la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Et puis un rendez-vous à noter déjà pour la fin de la semaine et le week-end prochain, le salon Habitat Déco ouvrira ses portes vendredi, salon qui se déroulera jusqu'à dimanche sur le site de Coécara.
Merci beaucoup Lionel Sabot, 17h passé de 59 minutes au moment où les bureaux de vote s'apprêtent à fermer leurs portes. Nous allons tourner une courte pause publicitaire dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité. Et la Calédonie concernée par un nouvel épisode de forte pluie. À tout de suite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Mickaël Juneski.
Une semaine annoncée sous la pluie. Ce dimanche, les fortes précipitations concernent déjà la côte Est et plusieurs communes ont été placées en vigilance orange, forte pluie orage. Vigilance en vigueur au nord d'une ligne Point-Dimier-Point-Bout, mais aussi sur Bélep' et sur le reste de la côte Est pour des averses orageuses qui vont s'intensifier progressivement pendant les prochaines 24 heures. D'importants relevés pluviométriques ont déjà été enregistrés par les services Météo France de Nouméa. Plus de 100 à 150 mm en 24 heures sur le sud et l'extrême sud du territoire. Les précisions de Lionel Déric, prévisionniste à Météo France Nouvelle-Calédonie.
On a déjà des fortes pluies qui sont tombées notamment sur le sud-est et la pointe sud de la Grande Terre. On a eu environ 100 mm en 24 heures. Et l'évolution, c'est que ces pluies vont s'intensifier et se généraliser à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie avec des fortes pluies qui vont toucher essentiellement le nord et la côte est. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une dépression là au sud des Salomons qui devrait se creuser avec une trajectoire sud et qui l'amènerait proche de Bélep', qui passerait donc à une centaine, 500, 150 mm à l'ouest de Bélep' dans la nuit de lundi à mardi. Donc, ce qui explique la dégradation du temps. Donc, on est passé en vigilance orange, forte pluie, orage sur donc la moitié nord de la Grande Terre et la côte est. Et puis aussi en vigilance jaune, vent fort pour demain après-midi sur l'extrême nord.
Les précipitations seront donc fortes, voire orageuses sur l'Est, les Loyautés ainsi que sur les pointes de la Grande Terre, l'île des Pins et Bélep' pour les prochaines heures. Sur l'Ouest, les pluies sont aussi au programme, mais elles sont moins soutenues. Demain, les pluies vont se généraliser sur l'ensemble du territoire, en particulier sur l'extrême nord et le nord-est. Jusqu'à la semaine prochaine, la Nouvelle-Calédonie va se maintenir dans une masse d'air humide et parfois instable avant le retour des éclaircies. En bref, un accident de la circulation qui n'a fort heureusement pas fait de blessés graves à Saraméa aux environs de midi ce dimanche. Un choc frontal est survenu dans le secteur de Fonwari. Dans l'une des voitures, une seule personne à bord qui a dû être désincarcérée de l'habitacle par les pompiers. Son pronostic vital n'était pas engagé. La victime a été conduite au dispensaire de la FOA. Dans le second véhicule se trouvaient trois personnes dont un enfant. Elles s'en sont toutes sorties indemnes. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour déterminer les causes exactes de l'accident.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
L'actualité à l'international est toujours marquée par le conflit au Moyen-Orient. Le sud d'Israël a été durement touché. On déplore plus de 80 blessés dans la ville d'Arad, dont 10 dans un état grave après des frappes sur un immeuble d'habitation. On compte au moins une trentaine d'autres blessés à Dimona, où c'est la centrale nucléaire qui a été visée. Frédéric Simon est le correspondant d'Europe 1 en Israël.
Alors que le conflit est entré hier dans sa quatrième semaine, les capacités nucléaires des belligérants sont pris pour cible. Les missiles iraniens ont visé en début de soirée le sud d'Israël et notamment les environs de la ville de Dimona, où se situe la principale centrale nucléaire du pays. Plus tard dans la soirée, une autre localité du sud d'Israël, celle de Arad, était atteinte par un missile tiré depuis l'Iran. Là aussi, des dizaines de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Pour l'Iran, il s'agit probablement d'une riposte aux raids aériens américains et israéliens qui avaient pris pour cible des objectifs liés au programme nucléaire de la République islamique, parmi lesquels la centrale de Natanz, l'un des principaux centres d'enrichissement d'uranium dont dispose le régime, bombardé selon les médias officiels par l'aviation de Tsahal, ce que dément l'armée israélienne, qui confirme toutefois avoir bombardé une annexe de l'université de Téhéran utilisée pour le développement de composants nécessaires à la conception d'armes nucléaires. Parallèlement, l'Iran a tenté d'atteindre une base américano-britannique située sur l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien, à 4000 km environ du territoire iranien. Le régime des Mollahs dispose donc de missiles d'une portée plus longue que ce qui a été connu jusque-là, capable de parcourir plusieurs milliers de kilomètres. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré hier soir que les capitales d'Europe occidentale, Londres, Berlin et Paris, risquaient désormais d'être directement menacées.
Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. De son côté, Benjamin Netanyahou promet de continuer de frapper l'Iran après, je cite, « une soirée très difficile pour l'État hébreu ». Autre menace contre l'Iran, celle de Donald Trump dans le détroit d'Hormuz. Le président américain donne 48 heures à Téhéran pour ouvrir totalement et sans aucune menace, le détroit. Sinon quoi, Washington frappera directement des centrales électriques iraniennes. Réaction immédiate de la République islamique. En cas d'attaque, l'Iran s'en prendra aux infrastructures énergétiques dans la région. Et après plusieurs appels de la Maison-Blanche pour obtenir le soutien de ses alliés, une vingtaine de pays, dont la France, se disent prêts à sécuriser le détroit d'Ormuz. Une déclaration qui laisse entrevoir une intervention militaire pour reprendre le contrôle du passage maritime, selon le géopolitologue François Constantini.
Il faut savoir si on parle la langue de la diplomatie, la langue de la défense. À mon sens, ça ne peut pas se traiter par la diplomatie. Si on s'occupe du détroit d'Ormuz, c'est forcément à partir d'unités militaires. Alors peut-être pas du Charles de Gaulle qui n'a pas à être exposé, hein, qui n'est pas un bâtiment, vous savez, de combat, mais à partir peut-être d'autres vaisseaux, de frégates, par exemple, l'utilisation également de dragueurs de mines, qui est les mines des mines, mais en tout cas une participation de ces 20 pays, et certain que c'est pas une participation à partir de satellites, c'est une participation militaire que les États-Unis et que chacun entende. Donc à force Syrie, il s'agirait peut-être de créer une sorte de force multinationales qui interviennent, libèrent et prennent d'une façon ou d'une autre le contrôle du détroit d'Ormuz.
Le géopolitologue François Constantini, spécialiste du Moyen-Orient. J'ajoute que ces dernières heures, plusieurs détonations ont été entendues à Jérusalem par des journalistes de l'AFP après l'avertissement par l'armée israélienne de tirs iraniens de missiles en direction du centre d'Israël. L'agence officielle iranienne a affirmé de son côté qu'une attaque de drone avait visé une base militaire près de l'aéroport de Bagdad en Irak. L'actualité nationale avec l'innovation au service de la population. Un dispositif qui pourrait améliorer le quotidien de milliers de personnes. Des lunettes connectées pour des personnes malvoyantes. 3% de la population est concernée par ce handicap. Pour répondre à leurs besoins, plusieurs start-up françaises développent et adaptent leur technologie. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Au départ, Orion, c'est une application. Le téléphone donne des indications aux déficients visuels. Stéphanie Robieux, présidente et cofondatrice.
Jusqu'à maintenant, c'était identifier, localiser les éléments, avoir plus d'accès aux environnements des lieux. Demain, ça va être dans 90% des situations de la vie quotidienne, donner des informations sur les repères, où je me trouve, comment j'accède à tel objet.
Et voilà comment la personne déficiente visuelle est aidée.
Je cherche mon objet.
Balayez votre environnement avec la caméra. Objet centré. Rapprochez-vous.
Dans les tuyaux, un partenariat avec les Ray-Ban Meta vendu à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde l'an dernier. Laura Bononcini, responsable des affaires publiques pour Meta dans l'Europe du Sud, décrit une autre innovation intégrée dans les lunettes connectées, celle de la start-up Be My Eyes.
La personne non-voyante va demander aux lunettes d'être leurs yeux. Ça va déclencher automatiquement un coup de fil, une vidéoconférence à un volontaire qui va pouvoir être vraiment les yeux de la personne non-voyante, lui dire devant quel obstacle elle se trouve, l'aider à retrouver quelque chose.
Et grâce à la montée en puissance de l'intelligence artificielle, les déficients visuels pourront donc converser soit avec un humain, soit avec un robot.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Il est 18h passé de 7 minutes, une dernière pause publicitaire et on voit toute l'actu sport.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La fin de votre journal, le sport avec Mickaël Juneski.
Et nous allons commencer par le rugby et le top 14 qui fait son grand retour ce week-end.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
On joue en effet la 19e journée du championnat de France Élite, une journée qui s'achèvera demain avec un choc entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Match qui verra le retour de Romain Ntamack dans l'effectif du 15 Toulousain. Christopher Filoc pour Europe 1.
Trois mois d'attente pour Romain Ntamack qui a enchaîné les pépins. D'abord des soucis aux reins, puis aux ischio-jambiers. L'international français de 26 ans qui n'a plus joué depuis le 28 décembre avec Toulouse sera donc bien sur le terrain. Son coéquipier Mathis Lebel, particulièrement heureux de le retrouver.
Je pense qu'il lui tardait vraiment de retrouver les terrains, retrouver les copains, retrouver cette sensation de jouer au rugby, parce que c'est vrai qu'il a été pas mal embêté avec quelques pépins physiques. Après, j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il reviendra très vite aux manettes de l'équipe pour espérer nous amener le plus loin possible.
Romain Ntamack de retour, et pas contre n'importe qui. Face à lui, le Bordelais Mathieu Jalibert. Ce sera le match dans le match. Il faut dire que les deux joueurs incarnent la concurrence au poste de numéro 10 en équipe de France, et Jalibert a su profiter de l'absence de Ntamack pour devenir l'un des hommes forts du 15 de France. Et hasard du calendrier, c'est la troisième fois consécutive que Bordeaux accueille Toulouse juste après le tournoi Destination. Les deux premières fois, ce sont les Bordelais qui se sont imposés à l'issue de rencontres spectaculaires.
Christopher Filoc du service des sports d'Europe 1. Rappelons les résultats des matchs qui se sont joués ce dimanche. Montpellier s'est imposé sur la pelouse de Clermont 20-17. Le Racing 92 l'a emporté sur Castres 52-21. Le Stade français est allé l'emporter sur la pelouse de Toulon 46-27. Autre victoire à l'extérieur, celle de Bayonne sur la pelouse de Montauban 60-26 et celle de Lyon sur le terrain de Perpignan 32-28. Enfin, La Rochelle s'est imposée sur la section paloise 20-6. On passe au football avec la fin demain matin pour nous de la 27e journée du championnat de France de Ligue 1. Lionel Sabot.
Oui, 5 matchs seront au programme. Nous suivrons notamment la rencontre choc entre Lyon, le 4e du classement, et Monaco qui est 6e. À suivre également à Rennes qui recevra Metz, la lanterne rouge du championnat. Le Paris FC d'Antoine Comboiré accueillera à Le Havre. Marseille recevra Lille au stade Vélodrome. Enfin, Nantes accueillera Strasbourg. Rappelons que ce matin, Paris a repris la tête du classement général après sa victoire 4-0 sur la pelouse de Nice. Toulouse s'est imposé 1-0 sur Lorient et Auxerre a battu Brest 3-0. Rappelons qu'hier matin, en ouverture de cette journée, Lens s'était imposé sur Angers.
Et puis les sports mécaniques ce week-end avec la deuxième manche du championnat du monde de MotoGP. Pilotes et écuries sont au Brésil, Lionel.
Oui, la course sprint a dû être retardée à plusieurs reprises ce dimanche en raison des intempéries. On retiendra la victoire de Marc Marquez. Le Français Fabio Quartararo s'est classé 6e et il marque des premiers points précieux.
Je vais pas dire que c'est un avantage, mais j'ai réussi à m'adapter très rapidement au circuit, surtout dans les conditions où on était avec les slicks. Donc assez content, et je pense que voilà, demain on peut faire une belle course, on peut s'amuser. Ça sera long, mais on va voir qu'elle peut l'utiliser.
Un mot de l'autre Français dans ce championnat du monde, Johan Zarco, qui a malheureusement chuté lors des qualifications qui ont pu se disputer sur piste sèche. C'est l'Italien Fabio Di Gianantonio qui a décroché la pole position, alors que Fabio Quartararo s'est classé 4e. Johan Zarco lui a signé le 10e temps. Le Grand Prix du Brésil sera à suivre demain matin pour nous. Le départ à 5h de Nouméa.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Le sport en Calédonie, les portes ouvertes de la piste de BMX Race à Nouméa étaient organisées ce samedi. Le comité régional de cyclisme convient notamment les plus jeunes à venir essayer cette pratique qui dispose désormais d'un site sur mesure à Tina, une discipline qui cherche à se développer dans les années à venir. David Chavitz est le président du comité régional de cyclisme.
On a vraiment de la chance d'avoir une piste de BMX Racing de cette qualité, donc ça permet en effet d'attirer pas mal de jeunes. Donc là, on a fait une matinée portes ouvertes pour faire connaître la discipline et puis faire découvrir un peu ce qu'on met en place, sachant qu'il y a des cours le mardi soir, le mercredi après-midi, le jeudi soir et samedi matin. Donc après, ils peuvent s'abonner toute l'année pour venir régulièrement, deux fois par semaine, pour pratiquer, et puis après, pourquoi pas pour faire des compétitions. C'est vrai que l'année dernière, on a fait une première compétition qui a permis d'attirer une cinquantaine de jeunes, et là, on est déjà sur les abonnements, on doit être à une trentaine, donc on espère aussi arriver à avoir peut-être régulièrement 50 jeunes, et puis pourquoi pas sur les compétitions, attirer des jeunes et des moins jeunes. Donc on va essayer de mettre en place cette année une Coupe de Calédonie avec 4 manches réparties sur l'année. Donc ça aussi, ça va sûrement attirer du monde et attirer du public. Donc on espère démarrer l'année et puis après continuer sur les années qui viennent à développer cette discipline.
Des initiations gratuites étaient proposées donc ce samedi pour tous les niveaux sur le site de Tina. Il y avait également du basket hier avec le challenge Benjamin au Mont d'Or. sport, la compétition qui permet aux jeunes basketteurs de prendre part à des défis individuels. Sean Sian de l'AS d'Imbéa a terminé en tête chez les garçons et Leila Evan Long de VKP s'est imposée chez les filles. Les finales nationales se dérouleront les 24 et 25 avril prochains en métropole. On jouait aussi la Foot Golf League Fairy Tale sur les greens d'Imbéa. Dans le tournoi en simple, c'est le président du Point Bout Sporting Club, Valérian Hummels, qui s'est imposé devant Christophe Robert et Dominique Gouet. Et puis, notez que nous parlerons padel ce lundi midi dans le MAC des Sports. La Ligue calédonienne de tennis lance cette semaine les interclubs hommes et dames, compétition qui rassemble 4 clubs du territoire, Auteuil, Montcoffin, Olympique et Receiving. Nous serons en compagnie de Philippe Morin, responsable padel à la Ligue calédonienne, et Stéphane de Gaillande, représentant de l'Olympique. Et puis, un tout dernier résultat ce week-end avec la première régate du Challenge Croiseur organisée par le CNC. 16 équipages qui s'affrontaient. Après 3 manches courues en temps réel, c'est l'équipage de Pulpito, skippé par David Tréguier, qui s'est imposé, suivi de Guilty Pleasure Speed Marine, d'Alexandre Ruiz. L'équipage BNC MyNet Léon, skippé par Michel Quintin, complète le podium. En temps compensé, la victoire est revenue à l'équipage BNC MyNet Léon, suivi de Pulpito et Guilty Pleasure Speed Marine. 18h15, l'heure de votre météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et nous avons déjà évoqué la dégradation des conditions météo attendues dans les prochaines heures. Si vous nous rejoignez, je vous donne le ton. Bonsoir Pierre, la météo, ça s'annonce pluvieux.
Ça s'annonce extrêmement pluvieux. En effet, comme vous le disiez, vigilance orange, forte pluie, orage au nord d'une ligne point d'Igné, point Bout, sur Belep et le reste de la côte est, pour des averses orageuses qui s'intensifieront progressivement au cours des prochaines 24 heures. Et vigilance jaune, forte pluie, orage sur tout le reste du territoire. Et vigilance encore jaune, vent violent sur Puebo, Wegua, Poum, Koumak et Belep pour demain après-midi. Cette nuit, les précipitations seront fortes, parfois orageuses sur l'est, les Loyautés, ainsi que sur les pointes de la Grande Terre, l'île des Pins et Belep. Sur la façade ouest, la pluie fera aussi partie du programme, mais elle restera moins soutenue, souvent isolée ou éparse. La côte ouest restera globalement déventée, sauf dans les vallées où le vent d'est soufflera entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, le vent de secteur est se renforcera et atteindra en fin de nuit 10 à 15 nœuds et jusqu'à 15 à 20 nœuds sur le nord-est, voire 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur la pointe nord. Les températures minimales quant à elles resteront élevées, comprises entre 23 et 25 degrés. Demain matin, les pluies se généraliseront à l'ensemble du territoire. Elles seront localement fortes, notamment sur le relief, le nord et l'est. Le risque orageux sera plus marqué sur le nord-est, l'extrême nord et aux Loyautés. Le vent d'est à nord-est soufflera entre 10 et 15 nœuds plutôt en général, et il se renforcera entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds sur la pointe nord et Belep. Sur l'ouest, il restera plus faible autour de 10 nœuds, mais avec quelques accélérations encore une fois dans les vallées. Côté mer, la marée sera haute à 22h42, puis basse demain matin à 4h40 avec des niveaux compris entre 1,57 m et 56 cm. Et côté ciel, la lune montante n'offrira qu'un clair de lune de 15%, une lumière encore discrète comme un croissant à peine esquissé dans la nuit, pendant qu'en dessous du ciel, le ciel se fera entendre sa toute puissance. Je me suis complètement emmêlé.
La poésie, c'est pas votre truc ce soir. Normal, c'est la pluie. Hein. Ça n'aide pas. Ça n'inspire pas. Je vous comprends. 18h passé de 17 minutes. C'est la fin de ce journal.